vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Damien Roucou,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est presque banal de le dire, la musique a une capacité incroyable à transcender les frontières, qu'elles soient géographiques ou culturelles. Et l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui en est sans aucun doute l'un des meilleurs exemples. Une répétition obsédante, deux thèmes de 16 mesures, jusqu'à une explosion finale. Depuis sa création en 1928, ce morceau de 16 minutes s'est imposé comme l'œuvre la plus jouée au monde, dans les salles de concert et de danse, mais aussi au cinéma et sur les disques de bien des artistes en tout genre, au sens premier du terme. L'exposition dont nous allons parler aujourd'hui nous plonge dans la partition, dans la composition, dans les origines, dans les interprétations de cette œuvre à la fois savante, radicale, populaire, le Boléro de Ravel. L'exposition Ravel Boléro est à découvrir à la Philharmonie de Paris, au Musée de la Musique, c'est jusqu'au 15 juin prochain, et vous m'en direz des nouvelles. Pierre Corzilius et Lucie Caillas, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le commissaire et la conseillère musicale de l'exposition. Alors, quand on entre dans l'exposition, on a le choix. Ou bien on passe à gauche pour s'engager directement dans le parcours, ou bien on passe à droite et on s'assoit devant un écran géant pour écouter et pour regarder l'Orchestre de Paris jouer le Boléro sous la direction de Klaus Makelle. Alors, il faut bien le dire, il faut absolument voir le film. C'est absolument indispensable parce que ça donne une dimension très très différente au parcours qu'on l'on pour découvrir ensuite. C'est un film qui a été tourné spécialement pour l'exposition ?
Absolument, c'était vraiment le but de plonger d'abord dans le Boléro, d'avoir une vision complète et inédite avec cette production de Gordon et Jean-François Martin, qui nous plonge dans la structure aussi du Boléro, dont peut-être... Lucie peut nous dire un mot,
oui,
ou nous dévoiler le code
couleur. Ah oui, on va faire ça progressivement, parce qu'effectivement, on le découvre dans le film, et c'est vrai que les images sont extrêmement claires, la façon de tourner met aussi en valeur cette dimension pédagogique. Hein. Et donc, pendant un petit quart d'heure, donc on peut écouter, évidemment, en son immersif, et on peut aussi regarder sur l'écran géant, 10 mètres de large, hein, parce que la réalisation, la disposition même des musiciens, tels qu'on la découvre dans le film, éclaire justement sur la composition et sur la structure de l'œuvre. Alors, les musiciens sont disposés en spirale, presque en escargot. Il y a des images filmées en plongée qui le montrent. Et au centre, un tambour, ou plus précisément, une caisse claire. C'est quoi la différence d'ailleurs entre tambour et caisse claire ?
Moi, je pense qu'à l'origine, c'était tambour, parce qu'à l'Opéra de Paris, il n'y avait pas de percussionniste et que c'était les musiciens de la garde républicaine qui jouaient. Donc, ils jouaient du tambour. C'est ce qui est écrit, d'ailleurs, sur la partition de Ravel. En fait, aujourd'hui, tout le monde utilise la caisse claire, puisque c'est elle qui est représentée dans nos orchestres.
Alors, la caisse claire est placée donc au centre hein, de l'orchestre, au centre des musiciens. Et si elle est placée là, dans le film, c'est parce que c'est cette caisse claire donc, qui imprime le fameux ostinato du Boléro de Ravel. Là encore, question de définition, c'est quoi un ostinato ?
C'est une phrase ou un motif qui est répété très souvent. Et ici, pour le Boléro, effectivement, nous avons cet ostinato, cette petite cellule rythmique qui est répétée 169 fois.
Voilà, et l'ostinato du Boléro, c'est ça. Alors, on est dans un rythme à trois temps, ça c'est caractéristique du Boléro.
Du vrai Boléro.
Du vrai Boléro espagnol.
Voilà, même si celui-ci n'a peut-être pas le tempo, il est plus lent, mais c'est bien une danse à trois temps, donc Ravel... Il a reçu la commande d'un ballet espagnol et finalement, le Boléro, ça correspond bien à cette idée, celle d'Ida de Rubinstein.
Voilà, on va revenir effectivement sur la création, sur la commande. Donc, Ida Rubinstein, grande danseuse, hein, création en 1928 à l'Opéra de Paris. Alors, au départ, il voulait faire un fandango. Alors là, encore, définition, c'est quoi un fandango et c'est quoi la différence entre un fandango et un Boléro ? C'est la même chose ?
Non, c'est pas complètement la même chose, puisqu'il y a vraiment une arborescence des danses espagnoles. Donc, elles remontent pour la plupart au XVIIIe siècle. Mais le Boléro était quand même la danse, qui avait plus de tenue, il y avait des académies du Boléro. Et on ne sait en fait pas pourquoi Ravel a changé de nom entre son projet Fandango et la correspondance avec son éditeur, où le Fandango est devenu un Boléro.
Oui, il y a un jour où tout à coup on passe de fandango à boléro, mais on n'a pas franchement.
Voilà, c'est l'un des mystères qu'on n'a pas encore éclairci.
Mais il y en a beaucoup.
Voilà, alors très vite, donc on a parlé de la caisse claire, très vite interviennent des cordes pour appuyer justement le rythme et les temps forts de chaque mesure. Alors les cordes en pizzicati, en pizzicato,
c'est ça, en pizzicato, voilà, donc ouais. Pincé avec le doigt,
voilà,
et
donc...
qui à la fois elle donne de l'harmonie.
Oui.
Et en même temps, elle renforce le rythme. Et donc, pour nous, je pense que c'est ce qui constitue ce qu'on a appelé l'accompagnement. Puisque finalement, il y a trois éléments. Il y a l'ostinato, les deux mélodies, et puis cet accompagnement.
Voilà, la première mélodie, elle arrive avec la flûte traversière. Donc cette flûte qui imprime cette première mélodie que l'on fredonne encore d'ailleurs quand on sort de l'exposition. Hein. On sait comment cette mélodie est venue comme ça à Maurice Ravel ?
Ça, c'est effectivement encore un autre mystère. Mais en fait, il y a deux pistes. Premièrement, il avait travaillé sur un projet plusieurs années avant la création du Boléro. Et la petite lettre qui ouvre l'exposition dit « J'y travaille depuis 3 ans ». Et c'est vrai qu'il parle dans la correspondance des mélodies populaires de l'époque. Et Valencia, par exemple, cette mélodie populaire qu'on connaît tous, eh bien, par son style populaire, simple et presque banal, ben, c'est ça qu'il a inspiré pour créer l'équivalent pour son boléro, ce qui est complètement contradictoire. C'est une œuvre extrêmement sophistiquée sur la structure, mais en fait, elle utilise la mélodie peut-être la plus simple qu'on puisse imaginer, sauf que si on essaie de la siffler, puisqu'il y a quand même des petites asymétries dedans, Ravel ne serait pas Ravel s'il n'avait quand même pas un fond de complexité. Eh bien, ça reste quand même une mélodie, comme vous disiez, on entre, on la siffle en sortant et... Ravel a atteint son but.
Voilà, tonalité en do majeur, hein, c'est bien
c'est
ça.
C'est ça. Il y a une autre anecdote, parce que pour montrer un petit peu que les pistes sont assez brouillées, c'est le compositeur Gustave Samazeuil qui rend visite à Ravel à Saint-Jean-le-Luz et qui dit que ça lui est venu comme ça et qu'il a eu l'idée de construire quelque chose à partir de ça. Donc, au fond... Il a pu se passer voilà. Pas mal de choses.
Mais c'est pas plus mal, finalement, effectivement, de pas avoir de réponse très, 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 très précise. C'est donc cette flûte traversière hein, qui inscrit cette mélodie à la fois dans la partition et dans les oreilles des auditeurs. Mais il n'y a pas une, mais deux mélodies dans le boléro. Voici la deuxième. Deuxième mélodie imprimée, et ça on s'en rend compte très bien en voyant le film par un autre instrument avant, le basson. Et ça peut surprendre parce que moi qui ai découvert la musique classique comme beaucoup de gens avec Pierre et le Loup de Prokofiev, on m'avait expliqué à l'époque le basson c'est vraiment un instrument extrêmement grave, enfin c'est vraiment, c'est moins qu'on puisse dire. Là on a un instrument qui a pas le son aussi grave que le basson.
Et oui, parce que Ravel ne serait pas Ravel s'il n'optait pas pour le registre quand même le plus difficile pour le basson, donc le registre aigu, brouillant ainsi les cartes. Ravel aime vraiment beaucoup brouiller les cartes.
Peut-être voilà. On peut ajouter qu'il n'est pas le premier à avoir brouillé les cartes avec le basson. Et il était aussi très ami avec Stravinsky. Et pour moi, il y a un petit clin d'œil au solo qui commence le Sacre du Printemps, qui est aussi dans un registre improbable. Et pour moi, il y a un petit, une petite référence. Comme
voilà,
ça.
Donc deux mélodies. Comment est-ce que Ravel passe de l'une à l'autre, quoi, ce deux thèmes, mais 16 mesures. Donc,
alors finalement,
comment ça se passe?
Déjà, il répète chaque thème deux fois, et entre les répétitions, il y a les deux mesures de l'ostinato, qui lui ne s'arrête jamais, qui sépare les entrées. Et donc finalement, ce sont ces deux mesures qui permettent d'alterner première mélodie, deuxième mélodie, sauf à la fin où les choses se précipitent,
oui,
et où il n'y a plus justement de sas entre, en quelque sorte.
Alors, tout ce que vous nous expliquez là, Pierre Corzilius et Lucie Caillas, depuis le début de l'émission, on peut se rendre compte, donc dans le film évidemment, mais aussi sur un diagramme qui est installé vraiment dans le cœur de l'exposition avec un écran interactif. C'est vraiment très bien fait, on peut vraiment s'intéresser à telle ou telle partie du morceau. On voit aussi le manuscrit autographe de la partition, hein, qui date donc de 1928. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette première partition?
Cette première partition, c'est une partition écrite au crayon, donc c'est un trait extrêmement fin. C'est une énorme partition, puisque vous avez vraiment un orchestre très imposant, et donc les mesures sont très, très petites, l'écriture est extrêmement fine, et on découvre ce Ravel minutieux, extrêmement attentif au moindre trait, dans déjà ce premier jet, puisqu'il y a eu plusieurs jets, après il y a eu une version à l'encre. Mais cette première, comment dire, ce premier jet au propre, on voit déjà tout le Ravel avec sa minutie.
Voilà, et sur la partition, comme sur ce diagramme interactif, on se rend compte que, enfin, c'est un peu comme dans le film d'ailleurs, donc de l'arrivée successive des différents instruments, donc clarinette, trompette, saxophone. Et pour ces trois instruments, il faut d'ailleurs parler au pluriel, quoi. Il y a clarinette et clarinette basse, trompette et trompette bouchée, saxophone soprano et saxophone ténor. Le saxophone utilisé comme ça, c'est pas très répandu à l'époque.
C'est un peu inhabituel.
Ouais.
En fait, nous sommes ici sur Radio France Internationale, et même si on écoute là maintenant la mélodie comme ça, très naïvement, on entend bien qu'il y a plein d'autres ingrédients. Elle a un côté orientalisant aussi. À la suite du boléro, vous parliez du saxophone, on a quand même des éléments de jazz qui arrivent. Et il faut oublier que Ravel revenait des États-Unis quand il a composé ce boléro. Et donc, c'est aussi une œuvre qui intègre toutes ces influences et toutes ces choses qu'il affectionnait particulièrement.
Alors évidemment, la succession de ces instruments ne doit rien au hasard. Ils épousent le crescendo.
Ils construisent le crescendo,
exactement.
Et même, je pense qu'il y a une manière... Vous parliez du saxophone. Le saxophone, il est amené par la superposition de la trompette, un cuivre, avec la flûte. Donc ça, déjà, c'est presque un saxophone. Donc il y a toute une stratégie de faire entrer les instruments d'abord les uns après les autres, puis de commencer à les combiner. Et puis, ce n'est pas un crescendo continu strictement. Il faut pouvoir repartir. Donc, par exemple, le trombone va aussi avoir un rôle spécifique. L'autre instrument du jazz, et qui, à la fin, va être chargé des glissandi. Donc, il y a vraiment une présence du jazz. Et donc, Ravel, il construit à la fois son crescendo sur les mélodies en superposant, et c'est ça l'intérêt d'avoir les couleurs, c'est qu'on a l'impression d'un espèce de feu d'artifice orchestral. Mais l'ostinato est traité de la même façon, avec un rôle spécifique donné aux quatre corps qui deviennent la trame principale de l'ostinato. Et c'est vraiment... un double crescendo.
Voilà, donc crescendo, c'est de l'augmentation de l'intensité.
Voilà.
Glissandi, un mot que vous venez d'employer.
C'est quand on passe d'une note à l'autre via d'autres notes qui ne sont pas écrites, finalement.
D'accord.
On glisse.
Et cette intensité, elle culmine évidemment avec le final. Et c'est comme cela que se termine donc après un bon quart d'heure ce fameux boléro de Ravel. Alors décrivez-nous musicalement parlant ce final. On est à la fois dans la continuité et dans la rupture, Pierre Corzilius ?
Alors, plutôt dans la rupture, parce qu'il y a une seule modulation dans toute la pièce. Voilà, une seule quand même, dans une pièce qui commence en do majeur. Donc c'est quand même vraiment la quintessence de l'académisme de commencer comme ça. Et l'explosion finale, eh bien, effectivement, elle détruit toute tradition académique, puisque une modulation, une explosion, un concentré de tous les instruments, abruptement. Ça, c'est aussi Ravel qui surprend.
Voilà, pièce créée, donc, on le disait tout à l'heure, en 1928. Alors, 1928, c'est vraiment une année phare hein, pour Ravel. Vous parliez de sa tournée en Amérique du Nord, en l'occurrence, Triomphe.
Oui, il ne faut pas oublier que plus de 3 mois en tournée, 32 concerts. Enfin, il fête son anniversaire avec Gershwin. Et puis, c'est aussi une tournée qui est assez lucrative. Il rentre avec un pactole intéressant dont il est très, très content. Et ça, il ne faut pas oublier, ce n'était pas un compositeur qui, de son vivant, a été forcément tout de suite... abonné au succès. Il a composé souvent des pièces qui étaient difficiles à comprendre, les histoires naturelles, par exemple, ou ses autres pièces de musique de chambre. Donc, le boléro, comme il dit d'ailleurs, quel est votre chef-d'œuvre ? Oui, mon chef-d'œuvre, certes, c'est le boléro, mais malheureusement, il est vide de musique. Donc, c'est quand même aussi Ravel qui nous offre un regard vers son fort intérieur avec cette citation.
Mais comment est-ce qu'il faut l'appréhender d'ailleurs cette citation ? Parce que c'est l'une des premières phrases que l'on lit quand on entre dans l'exposition. C'est une provocation gratuite.
C'est quand même, c'est l'humour. Enfin, c'est vrai parce que c'est simple par rapport à, je ne sais pas si on compare le boléro à Daphnis et Chloé, c'est sûr que c'est simple. On a l'impression qu'il a fait des calculs pour construire son truc et que ça n'a rien à voir avec des œuvres plus imposante. Mais je trouve que c'est son humour. Quand on lit sa correspondance, on voit qu'il a un humour incroyable, ironique vis-à-vis même de lui-même. C'est-à-dire que là, le boléro, c'est un succès, mais il a connu des échecs. Et quand on voit l'humour avec lequel il en parle à ses proches, bah, je pense que oui, il y a une part de vérité et une part d'humour.
Cher Ravel, il y a quand même toujours dans ses phrases provocantes un plus qu'un brin de vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier, je disais en début d'émission, à la fin de sa vie, il est très diminué, il va être opéré et il a déjà plus tous ses moyens. Mais néanmoins, il est avec ses amis, ils écoutent la radio. Et à la radio, il écoute son boléro joué à la radio. Et donc, il dit quand même à ses amis, et c'est vraiment reporté, enfin documenté, quelle bonne blague j'ai jouée au monde musical. Voilà.
Ouais. Donc ça, effectivement, ça signe un petit peu la personnalité du personnage.
Voilà. Oui, je pense qu'il n'attendait pas le succès. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait rempli la commande.
Voilà,
Là à ce que ce soit un succès phénoménal, non.
Voilà, donc création donc à l'Opéra de Paris le 22 novembre 1928, sous la direction d'Ida Rubinstein. Alors, vous avez prononcé son nom tout à l'heure. Qui est-elle, cette Ida Rubinstein, Lucie?
C'est une personnalité assez extraordinaire qui est née à Saint-Pétersbourg, qui est venue à Paris avec les ballets russes de Serge Diaghilev. Dans l'exposition, on voit cette merveilleuse peinture de Jacques-Émile Blanche où elle est dans le rôle de Scheherazade de Rimsky-Korsakov, sachant que Ravel fera lui aussi deux Scheherazade. Donc elle est d'abord dans cette troupe et puis elle s'en émancipe. Il se trouve qu'elle est d'une famille aisée et qu'elle a épousé un monsieur très aisé également et que donc elle fonde ses propres ballets, les ballets de Madame Ida Rubinstein, qui vont créer le boléro à l'opéra et qu'elle loue l'opéra de Paris pour pouvoir y donner cette création. Alors elle n'est pas l'auteur de la chorégraphie, qui est Bronislava Nijinska, la sœur de Nijinsky, un des grands danseurs aussi de Diaghilev. Mais en tout cas, elle joue un rôle fondamental. Et elle joue un rôle humain aussi qui se poursuit plus tard dans la vie de Ravel, puisque par exemple, un des derniers voyages de Ravel en Espagne et au Maroc, c'est elle qui l'organise pour lui. C'est Léon Leritz, le sculpteur, qui va l'accompagner, pas elle. Mais donc, on voit qu'il y a une espèce de proximité, de tendresse, en fait, d'Ida Rubinstein pour ce maître qu'est Ravel.
Alors, dans l'exposition, on voit l'affiche de la création du boléro. Il y a aussi des photos de répétition. Il y a une aquarelle qui montre la maquette du décor. Qu'est-ce que les spectateurs de 1928 voient sur scène, Pierre Corzelius ?
Alors, ils voient quelque chose d'extrêmement simple. Ils voient, en fait, une table dans une taverne obscure, une danseuse qui évolue sur cette table, entourée d'une cohorte d'hommes qui l'observent. Qui la regarde. Et en fait, c'est vraiment un ballet fait sur mesure pour Ida Rubinstein, qui avait quand même un style de danse tout à fait particulier. Elle avait des bras très très longs, elle avait des gestes qui étaient très particuliers. D'ailleurs, il ne plaisait pas du tout à Diaghilev, qui disait « Mon Dieu, elle danse vraiment n'importe comment ». L'exposition montre un petit extrait de Ida Rubinstein dans La Nave et une autre production. Et là, on voit effectivement qu'elle avait ce style tout à fait particulier. Bref, c'est un ballet fait sur mesure pour elle, et c'est elle qui va le porter dans les années à venir, à Vienne et dans d'autres villes dans le monde. Et à la suite, effectivement, le ballet devient une pièce pour orchestre, devient de piano et connaît sa carrière.
Mais le succès a été immédiat. Dès la création, le public a très bien réagi.
Il y a quelques réticences, mais on voit bien que l'œuvre de Ravel est donnée avec d'autres pièces de Honegger et Milhaud. Et les critiques disent bien que le clou du spectacle, c'est le boléro de Ravel. Donc il n'y a pas de doute sur ça.
Oui, parce qu'il y a une phrase qui est inscrite sur un mur. C'est une vieille dame. C'est une histoire qu'on a racontée à Ravel. Je ne sais pas si elle est basée sur la réalité ou si ça fait
c'est un témoignage de son frère, donc moi je pense qu'il y a...
Donc
c'est
vous lui accordez
oui.
foi.
Oui, tout à fait.
Alors, voilà. Donc, c'est une vieille dame qui se lève et qui crie « au fou, au fou, au fou ». Et quand on lui raconte la scène, Ravel réagit en disant « celle-là, elle a tout compris ». Là aussi, ça en dit long sur le personnage.
Absolument, mais pas seulement sur le personnage, parce que c'est une œuvre audacieuse, extrêmement audacieuse, et c'est effectivement, on dirait ça aujourd'hui, sur une œuvre d'avant-garde. Mon Dieu, au fou, enfin même Picasso, oui. ou un plasticien d'avant-garde cubiste, on dirait, mon Dieu, c'est l'œuvre d'un fou. Effectivement, c'est quand même une œuvre d'avant-garde dans ce sens-là, mais qui a la particularité d'avoir franchi le seuil de la hyper popularité, et c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Oui, et peut-être aussi, c'est une phrase un peu enfantine quelque part. Vous citiez tout à l'heure « Quel bon tour j'ai joué au monde musical », et il y a une section de l'exposition qui montre justement à quel point Ravel était finalement un grand enfant, ce qui ne veut pas dire évidemment un amateur, mais quelqu'un qui aimait s'amuser, qui était audacieux.
Oui, qui aimait jouer, je pense, et donc là effectivement dans l'exposition, Pierre a choisi toute une série de casse-têtes, donc notamment des casse-tête fil de fer, donc où il y a plusieurs morceaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Le jeu, c'est de les défaire. Vu comment les boîtes ont été manipulées, il y jouait, c'est clair. Alors, est-ce que quand il était nerveux, il se calmait en faisant ses... On ne sait pas. Il y a aussi des petits jouets qui sont d'origine japonaise, des poupées de Kobe, qui sont des petits jouets animés. Tout ça qui peuple sa maison à Montfort-la-Maurie. Donc oui,
en grande banlieue parisienne, maison qui s'appelle le Belvédère. Il y a plusieurs photos dans l'exposition. Les décors intérieurs, on peut aussi les découvrir. C'est dans cet endroit-là qu'il a composé le boléro ?
Oui, absolument. C'est 1928. Il a emménagé en 1921 et il y est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est d'ailleurs sur le bureau qu'on expose dans l'exposition, qui sort pour la toute première fois de la maison, qu'il a vraiment composé le boléro. Et je m'empresse toujours à dire que s'il y a vraiment une œuvre qu'il a plus composée sur un bureau qu'au piano, c'est le boléro.
Donc plus sur le bureau qu'au piano, parce qu'il y a une photo qu'il montre au piano, mais c'est vrai que le bureau, il est assez impressionnant. Il y a un stylo, il y a paire de lunettes, il y a la règle.
Oui, il y a la règle.
La règle, très utile, la règle.
La règle est très utile. C'est une règle que Anne Mignon, la conservatrice de la maison Ravel, nous a apportée pour... parce qu'on l'avait effectivement, elle était dans le tiroir et on ne l'a pas mise sur le bureau. Et on a découvert, plutôt c'est Anne Mignon qui a découvert que cette règle, elle avait une fonction très particulière en inch. Pourquoi en inch? Ça ne servait à rien. Mais par contre, c'est elle qui détermine la largeur des barres de mesure. Donc Anne Mignon a tout à fait trouvé cette... Ouais. une des énigmes du boléro.
Alors, vous avez concocté une sorte de cabinet de curiosité avec de très nombreux objets dont certains sont très étonnants et qui montrent l'amour du jeu. Vous parliez, Lucie Caillas, des casse-têtes, il y a des jouets mécaniques, il y a aussi des petits livres sur la magie, il y a une boîte à musique, il y a un vrai tropisme asiatique aussi, hein, donc pour le Japon et pour la Chine. C'est à la mode à l'époque ou il y a une raison particulière ?
Oui, ça reste quand même à la mode, en fait, à l'époque. Et c'est vrai que Ravel était attiré par l'exotisme, peut-être un peu moins que Debussy. C'est aussi plus complètement la même époque. Mais ça reste quand même une fascination. Par contre, une fascination que Debussy n'avait peut-être pas, bah, c'est justement la fascination pour le monde mécanique, pour la technologie, pour les usines. Et ça, effectivement, Ravel, c'est documenté, c'est montré, c'est tout à fait évident. Et le Bolloré, dans ce sens-là, est aussi une œuvre mécanique.
Oui, fait. D'ailleurs, il y a une section qui s'intitule « L'usine du boléro ». Ça, c'est un peu l'influence de son père, parce que son père, c'était un ingénieur, un inventeur. Donc, toute la dimension un peu mathématique, un peu scientifique du boléro, on peut supposer qu'elle vienne de là.
Oui, ça, c'est indéniable. Le petit Maurice évoluait dans l'atelier de son père, où il avait des dessins de machines les plus improbables les unes que les autres.
Par exemple, là, dans l'exposition, il y a un projet pour un générateur à circulation.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc, ce sont des dessins extrêmement beaux, extrêmement fins, qui ont vraiment une valeur esthétique. Et c'est vrai que le trait de Ravel, puisqu'on montre aussi des dessins de Ravel lui-même, du jeune Ravel qui a 10 ans.
Il y a une palette d'aquarelles, d'ailleurs, aussi.
Il avait une boîte d'aquarelles. Et donc, il dessinait, il faisait créait des pochoirs, il recréait des physionotraces. Il avait aussi une activité artistique à lui tout seul, qui est très très peu connu quand même, et qui dévoile ce personnage qui, eh ben, effectivement, peut-être la nuit, faisait des tours de magie, des tours de casse-tête, et qui dessinait, et qui aménageait sa maison, en fait.
Peut-être on peut...
Thank you.
Quelques mesures de la pavane pour l'infante défunte, interprétée par l'orchestre Anima Eterna, dirigée par Jos van Immersel dans VMDN sur RFI. Autre œuvre de Maurice Ravel, bien antérieure au boléro, puisqu'elle a été composée en 1899. D'un bout à l'autre de sa carrière, l'Espagne a vraiment imprégné l'œuvre de Maurice Ravel.
L'Espagne et la danse, je dirais les deux ensemble. Alors peut-être commençons par l'Espagne. Et je pense qu'il faut... Faut raffiner un petit peu, c'est l'Espagne et le Pays Basque.
Voilà, parce que sa mère était d'origine basque. Il est né à Cibourg, d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, il y a à la fois la musique espagnole telle qu'on se la représente, avec les toreros, etc., et le boléro, mais il y a aussi la musique basque, avec sa rythmique très particulière et qui imprègne d'autres œuvres. Donc, on voit l'Espagne un peu partout chez Ravel, depuis l'heure espagnole, cet opéra qui est aussi très... plein d'humour, jusqu'au boléro, en passant par la rhapsodie espagnole, la banera, etc.
Jusqu'à Don Quichotte,
Dulciné,
cette dernière œuvre. En 1932. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une influence basque dans le boléro ? Je ne sais pas si vous pouvez aller jusqu'à ce degré de précision.
Peut-être dans le début. Parce que il se trouve que c'est la flûte qui est le premier instrument qui rentre sur la percussion. Or, il y a des formations basques qui sont faites de cette manière-là. Percussion et flûte. Alors, flûte plus de type galoubet, donc pas la flûte traversière. Mais ce n'est pas du tout impossible.
Voilà, il y a des photos qui montrent d'ailleurs Ravel avec sa famille au Pays Basque. Mais Ravel, on parlait de Debussy tout à l'heure, Ravel et Debussy, ils ont... Souvent, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le compositeur français, les deux compositeurs français de cette période-là par excellence. En quoi Ravel est-il un compositeur français ? Pierre Corzilius.
C'est un compositeur français parce que c'était en fait dans sa vie toujours un patriote. En fait, il a essayé de se faire enrôler pour la Première Guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier que Ravel était de très petite taille et trop léger, moins de 50 kilos. Il ne pouvait pas être enrôlé. Il a fait des pieds et des mains pour s'engager. Et donc il a perfectionné, parce que s'il y a vraiment une caractéristique chez Ravel, c'est la perfection. Il a vraiment perfectionné le timbre orchestral, la beauté du son. Et s'il y a quand même une caractéristique de la musique française, en tout cas du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, mais en fait non, tout au long du 20e siècle, même Pierre Boulez a fait cultiver le timbre et le jeu avec les timbres, c'est quand même caractéristique de la musique française. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi déjà, sur patriote, je trouve que le mot est très juste, patriote et pas nationaliste.
Non,
patriote. Ce qui était le cas de Debussy, qui était quand même très radical. Et pour qu'est-ce qui est français, oui, c'est l'orchestration, la transparence de cette orchestration. Moi, je trouve que si on va plus loin, donc Boulez, mais aussi Dutilleux le dit, ce qu'il doit à Ravel, ce côté très scintillant, très transparent.
Et c'est vrai qu'il y a toujours une beauté, une douceur, je veux dire, même dans les pièces pour piano, vous prenez une phrase de Ravel... Vous la reconnaissez tout de suite parce qu'elle est ciselée, elle est sculptée dans du chêne, comme une sculpture en bois. Enfin, c'est d'une beauté. Si on prend la phrase, et je me rappelle toujours une masterclass avec Menahem Pressler au piano, qui lui avait parfaitement compris cette beauté et qui expliquait à ses élèves comment ces phrases, quelquefois très simples, sont sculptées comme... Voilà, comme une sculpture, comme un Rodin, comme un grand artiste plasticien.
C'est vrai que la simplicité et la précision, justement, ce perfectionnisme-là, c'est vraiment ce que l'on retient finalement
oui,
dans son travail.
Oui, je pense qu'il y a cette idée de la ligne qui se détache sur le fond. Et ça, cette idée de la ligne, elle n'est pas debussiste, qui est plus dans l'harmonie, je pense. Et je trouve que ça montre bien, enfin, on lui a collé parfois l'idée de néoclassicisme pour des œuvres comme le Tombeau de Couperin, mais c'est vrai que c'est cette pureté de la ligne qui se détache sur un fond d'orchestre et qui joue sur les plans, c'est typique de Ravel.
Vous n'avez pas cité Gabriel Fauré, pourtant il a été l'élève de
Fauré. Il a été l'élève de Fauré, mais alors,
sur la chronologie
j'ai bien réfléchi et j'ai eu un bon conseiller sur cette question. Donc il n'y avait pas de classe d'orchestration à l'époque. Donc on apprenait l'orchestration avec son prof de composition ou bien dans les partitions. Or, Fauré a fait orchestrer ses partitions par d'autres compositeurs la plupart du temps, donc Klein. Et finalement, quand Ravel conseille un jeune compositeur qui est Louis Duret. Il lui demande, enfin, il lui dit, oui, vous connaissez sûrement le traité de Vidor, et surtout celui de Rimsky-Korsakov, c'est extraordinaire, et il n'y a que des exemples tirés de sa musique. Donc la musique russe, et je pense que la musique, enfin, l'orchestration russe est un modèle pris dans les partitions, oui. Effectivement.
Alors l'exposition commence par une chronologie, justement, je le disais, des grandes étapes de sa vie. On peut y lire qu'il a raté de peu le prix de Rome. Il est arrivé second, c'est une blessure, ça ?
Ah oui, c'est quand même une blessure, parce qu'il s'est présenté au total 4 plus la cinquième fois où il a eu le deuxième prix. Donc ça veut dire qu'il n'a il a jamais été admis dans le, comment dire, dans le cénacle des prix de Rome. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu une carrière académique dans ce sens-là. C'était vraiment pas du tout aussi son être, en fait. Il était trop, au fond, anticonformiste, alors qu'on le voit toujours tiré à quatre épingles avec le costume,
très élégant,
etc.
Sur la fiche de l'exposition, on s'en rend compte.
Voilà, mais si vous voyez même ses œuvres, est-ce qu'il a composé une symphonie ? Non. Est-ce qu'il a... Oui, il a composé des sonates, mais est-ce qu'il a composé des véritables suites, ou est-ce qu'il s'est tenu la plupart du temps à des formes déjà existantes? Le Ravel, le Boléro en est le meilleur exemple. Qu'est-ce que c'est, le Boléro? On ne peut pas lui donner une forme. Enfin, c'est une fantaisie espagnole. Mmh. Non, c'est complètement autre chose. Donc, en fait, il a toujours été quand même en dehors de ses modes de pensée classiques. Et voilà, ça
richesse. Et il refuse la Légion d'honneur, ça aussi, on le lit sur le mur.
C'est dans la même veine. Bah oui, je pense. Et c'est vraiment aussi une des différences avec la carrière de Debussy. Debussy, il a le prix de Rome, et sa carrière, elle va se développer aussi grâce à ça. C'est pas le cas de Ravel, qui va mettre plus longtemps, finalement, à s'imposer en étant un petit peu à côté du cénacle académique.
Bon, cela dit, sa vraie Légion d'honneur, c'est la reprise du Boléro dans le monde entier depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, à travers tous les genres musicaux, par exemple version mambo. Ou encore version jazz avec le très swing Benny Goodman. Ou encore version hip-hop avec Sayan Supakru, figurez-vous. Peut-être l'un des plus surprenants, Sayan Supakru, mais effectivement, on le reconnaît tout de suite. Il y a Pierre Dac aussi, on l'avait passé dans l'émission qu'on
avec
lui avait consacrée avec tout le sketch. Il y en a vraiment beaucoup d'autres qu'on peut découvrir ou redécouvrir dans l'exposition. Il y a des extraits de films, de concerts, de spectacles aussi. Comment est-ce que vous expliquez, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais vous avez forcément dû vous la poser, comment est-ce que vous expliquez l'énorme succès planétaire du Boléro ?
On parlait tout à l'heure de la mélodie. C'est vrai que Ravel était très fier quand il sortait et qu'il entendait des ouvriers. Il dit siffler la mélodie de mon Boléro. Il y a aussi il existe un petit film sur Arthur Rubinstein, le pianiste, qui explique comment Ravel a imaginé le Boléro. Il dit oui, et puis il expliquait qu'il avait trouvé cette mélodie, il a sifflé et puis il a construit quelque chose là-dessus. Donc on parle toujours de la mélodie, donc certes c'est la porte d'entrée, mais comme le montrent ces exemples, en fait, vous avez vu le jazz, l'hip-hop, et puis il y a Frank Zappa, il y a tout. C'est la structure de la musique qui résiste à tout. C'est-à-dire la pièce est structurellement tellement forte qu'effectivement vous pouvez Vous pouvez mettre de l'électro dessus, vous pouvez la transformer en jazz, et vous avez bien entendu comme ça marche bien.
Oui,
au jazz.
Donc c'est facile à reprendre et adapter, on peut dire ça comme ça.
C'est facile, enfin, c'est, et puis ça marche, je veux dire, ça pourrait être complètement raté. Non, c'est bon. Enfin,
je dirais aussi que c'est une énergie jubilatoire, et dont tout le monde s'empare, et c'est devenu un bien commun. Et je pense que ça plairait beaucoup à Ravel.
Oui, alors il y a effectivement donc les musiciens, les chanteurs, il y a les cinéastes aussi. Mmh. On voit dans l'exposition des extraits des films de Kurosawa, il y a Brian De Palma, il y a Patrice Lecomte, il y a Claude Lelouch aussi, il y a Anne Fontaine, évidemment, c'est le dernier. La dimension visuelle et donc la dimension chorégraphique ont toujours accompagné et continuent encore aujourd'hui à accompagner cette œuvre musicale.
Ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que c'est peut-être plus subtil, plus compliqué, je dirais, que ce qui se passe dans les relectures musicales. Parce qu'en fait, il a toujours une fonction, le boléro, il n'est pas là tout le temps. Mais soit il revient parce qu'il contrepointe une action, etc. Donc il y a un vrai jeu de polyphonie entre l'image et la musique qui est très recherché, je trouve.
Oui, vous avez, oui, Pierre Corsivius.
Il y a une scène, on a choisi le film de Sion Sono, Love Exposure, où le boléro sert en fait pour illustrer une scène de bagarre entre une jeune femme et des malfrats. Et là aussi, ça fonctionne. Enfin, c'est tout à fait surprenant, c'est d'une violence incroyable. Mais ça fonctionne parce qu'effectivement, comme je disais, c'est tellement bien construit, c'est tellement Ravel, c'est tellement parfait que vous pouvez jeter 30 litres d'acide chlorhydrique. Le boléro restera inoxydable.
Oui, ce succès-là, il l'a senti dès le départ, Maurice Ravel, ou est-ce que c'est vraiment après sa disparition que les choses se sont développées ?
N'oubliez jamais, quand il écrit ce boléro, on le montre dans la première lettre, c'est une œuvre, c'est un projet qui ne m'intéresse pas. C'est vraiment le capitaine ad hoc qui parle au
professeur. C'est souvent comme ça pour les plus grands succès, d'ailleurs, dans tous les domaines
artistiques. Ça ne l'intéressait pas, et donc il s'est lâché, il a vraiment fait ce qu'il voulait. Pour une fois, il est dit dans cette lettre, j'aurais été saboté si je l'avais fait quelques années auparavant. Là, il se lâche comme un enfant insolent, prenant tous les risques. Et c'est toujours ça, on crée toujours des chefs-d'œuvre quand on prend beaucoup de risques.
Alors, le revers de la médaille, c'est l'imbroglio juridique autour des droits. Alors là, il faut que vous nous expliquiez un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on l'a tellement entendu, cette mélodie, elle a été tellement adaptée et réadaptée qu'on se dit, mais pour les droits patrimoniaux de l'œuvre, ça doit être un sacré casse-tête familial, mais pas seulement.
Oui, enfin, comme toute œuvre musicale, il y a le début des droits avec la création, et puis à la fin des droits, quand on a calculé toutes les années légales de protection multipliées par les années de guerre, etc. Et là, on arrive effectivement en 2016, quand le boléro tombe dans le domaine public, sauf aux États-Unis.
Puisque c'est donc aujourd'hui, on peut en faire ce que l'on veut, aujourd'hui, sauf sur le territoire américain.
Voilà. Sauf qu'il y a effectivement une procédure qui était en cours pour étudier si le boléro n'est pas seulement une pièce, mais aussi l'œuvre d'un collectif d'artistes, le décorateur, par exemple. Et cela a été tranché en faveur de Ravel, qui décide donc que c'est une œuvre musicale à la base, et donc c'est tombé dans le domaine public.
Pourquoi une exposition sur le boléro de Ravel aujourd'hui, en 2024 ? 2024-2025, hein. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs.
Oui, 2025. Ravel est né en 1875, donc nous célébrerons en mars prochain les 150 ans de ce compositeur immense. Et donc c'était à lui d'être à l'honneur pour une exposition au Musée de la Musique.
Il faut dire que le pari, c'est que c'est le boléro, mais que tout Ravel est dans le boléro, et qu'on peut tirer toute une série de fils qui sont les différentes thématiques qu'a choisi Pierre. Pour au fond ouvrir, et ce n'est que le point de départ pour rendre hommage à Ravel.
Voilà, une porte d'entrée effectivement dans l'ensemble de son œuvre. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Corsivius et Lucie Caillas, d'être venus nous voir dans VMDN sur RFI. L'exposition s'intitule donc tout simplement Ravel Boléro. Elle est à visiter absolument au Musée de la Musique, à la Philharmonie de Paris. On a le temps, c'est jusqu'au 15 juin, mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, de regarder et d'écouter le film d'ouverture qui a été spécialement donc filmé pour cette exposition. On va se quitter avec une dernière interprétation du boléro, elle est signée Angélique Kidjo sur RFI.
Va, non te va mi, mia roto nasse, non te va mia ruelo, mia rue, mia roto nasse, l'on loya ova mi ruelo, no viva mi hilo. Va, no viva do tone ase, e alolo no vinye, no viva do to agbe yawo, no viva do to agbe yawo, no viva. Mia ilo agbe le tekwa o, mia ila, mia ilo vivida, na mesia me. Dum, 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 va. Te va mi mia no to nasce no te va mia duelo mia due mia no to nasce no lo ya va mi duelo no viva mia ilo va no viva do to ne asse e allo lo no via no viva do to agbe yo wo no viva do to agbe yo wo no viva mia ilo agbe le te po wo mia ila mia ilo vivida na me si a me no no va no no ne ga no no va no 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 ne ga me no no vivi di mia no du se se de mia ne mia ku Chichueda y mumbiana mesia meda no coco cudo vivi no lo fafaro no 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 Famila, Famila, I pay a new age
Angélique Kidjo dans VMDN sur RFI. Dans un instant, le journal en français facile, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.